Bonne soirée. Écoute!
Wow! Le hockey vous manque? Envie d'avoir des nouvelles de la LNH? C'est prolongation. Tout ce qui touche le hockey, de près ou de loin. Avec Martin McGuire et Danny Dubé. Au 98.5.
Bon après-midi, bon samedi, la plus cordiale des bienvenues à cette autre édition de Prolongation, samedi le 21 novembre. Encore un menu fort chargé aujourd'hui. N'est-ce pas, Danny Dubé, que je salue
absolument,
à l'instant?
Absolument.
On a bien sûr encore l'actualité très chargée, Danny. J'allais faire un lapsus et j'allais parler du conflit entre les propriétaires et les joueurs de la Ligue nationale. C'est pas encore un conflit, mais on se demande si au cours des dernières heures, les négociations sont pas allées dans une impasse. On va développer bien sûr avec toi. Il y a des propositions sur la table qui ne déclenchent pas bien sûr beaucoup d'enthousiasme chez l'association des joueurs. Est-ce qu'on en viendra à une entente quand même pour un début de saison? Le 1er janvier prochain, ça reste à suivre. Sylvain Guimond, il est docteur en psychologie du sport. Danny, il sera notre invité aujourd'hui. Oui. Sylvain Guimond a fait paraître au début du mois de novembre un livre qui s'appelle « La puissance, nos différences ». Et ça tombe d'actualité puisqu'on le sait, le baseball majeur a embauché, une équipe du baseball majeur, les Marlins, ont embauché une femme, une première au poste de directeur général. On parle de diversité de plus en plus dans nos sports professionnels. Ça va être intéressant d'entendre Sylvain là-dessus. Et bien sûr, toi, de ton côté, par rapport à tout ça. Mmh. Alors, également, on va retrouver Gilles Courteau, le commissaire de la LHJMQ, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui poursuit son exercice. Ils ne veulent pas utiliser le mot « bulle ». On parle d'environnement protégé, contrôlé. Ça se passe au Centre Vidéotron à Québec et encore pour une dizaine de jours. Jusqu'à maintenant, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a tenu, en tout cas, plusieurs matchs et dans une assez pleine sécurité. On va développer, bien sûr, avec le commissaire un petit peu plus tard. Le commentaire de Danny, bien sûr. Et Danny, on va réserver ton commentaire à la place éventuelle des femmes dans le hockey, c'est bien ça?
Exactement, dans le hockey masculin.
Alors, d'entrée de jeu, Danny, le site internetathletic.com a publié vendredi un sondage quand même assez exhaustif sur la perception que les partisans du Canadien ont de leur équipe. Il y a plus de 1500 personnes qui ont répondu à ce sondage. Et pour en parler, notre chroniqueur et ami à athletic.com, Marc-Antoine Godin. Bonjour Marc-Antoine.
Ah, bonjour messieurs, comment ça va?
Content de te parler, Marc-Antoine.
Très content de te retrouver. On a l'impression de vivre une normalité, Marc-Antoine, quand on se parle comme ça tous les trois ensemble.
Exactement, c'est ça. Alors, c'est pas arrivé assez souvent en 2020, puis c'est réconfortant de vous retrouver, monsieur.
C'est gentil.
Merci, et c'est de même pour toi. Marc-Antoine, il y a une chose qui frappe, en tout cas, c'est qu'il semble y avoir le jour et la nuit entre les résultats de votre sondage d'avril, où à peu près les mêmes questions avaient été posées sur la perception du club, les perspectives du club, et aussi de ses dirigeants. On semble être dans deux mondes complètement différents là, sur le plan général, à prime abord.
Ben absolument. Écoute, quand on a fait notre sondage au mois d'avril, il faut se rappeler que le Canadien avait terminé sa saison régulière au 24e rang du classement général. Les perspectives, la perspective d'un tournoi estival auquel il prendrait part n'était pas encore vraiment déterminée. Je pense qu'il y avait une certaine morosité dans l'air. Ça s'était reflété. Je te dirais que les fans étaient surtout découragés par rapport à l'absence de progrès sur la glace. Il semblait y avoir quand même à l'endroit de Jeff Molson, de Marc Bergevin, même de Claude Julien, quand même encore une certaine confiance. Sauf que on le sait, le tournoi estival, la présence du Canadien en séries éliminatoires, la percée, si vous voulez, de Nick Suzuki, de Jesperi Kotkaniemi, entre autres, et par la suite l'entre-saison de Marc Bergevin qui a procédé à des transactions, qui a fait plusieurs signatures, qui a vraiment donné un gros coup de barre à son équipe, a fait en sorte que là, la perspective des fans envers l'équipe est devenue radicalement plus positive. Et à ce sujet...
Oui, vas-y.
Ben écoute, je vous dirais que ce qui, à mon avis, me frappe le plus, c'est que au mois d'avril, on avait posé la question aux amateurs, à savoir, est-ce que vous considérez le Canadien, la manière dont il est constitué en ce moment, comme une équipe digne des séries éliminatoires en vue de la prochaine saison? Il y avait presque deux tiers des fans, 62% des amateurs qui avait dit non. Et aujourd'hui, 7 mois plus tard, on pose cette question-là, et puis il y a 95% des gens qui disent oui, on considère que le Canadien va être une équipe de série pour 2020-2021. Et puis, comme tu le rappelais dans ton intro, c'est plus de 1500 personnes qui ont répondu à ça.
Danny, c'est quand même un message fort, puis c'est quand même beaucoup de confiance. Ouais. Est-ce que c'est justifié selon toi?
Ben écoute, c'est justifié dans la mesure où les gens ont été mis en appétit avec les résultats du Canadien en série. Moi, je pense que le fait que le Canadien ait participé aux séries, même si c'est par la porte de côté, là, comme on connaît l'histoire, il reste que les résultats ont été intéressants, assez pour que tout à coup, le Canadien de Montréal devienne une équipe en qui les gens peuvent croire. Et là, je m'explique, c'est que là, on dit, hey, tu bats Pittsburgh, ça veut dire que tu es capable de jouer contre n'importe qui dans la Ligue et d'aspirer aux grands honneurs. Donc, évidemment, c'est un peu un cadeau empoisonné, je trouve, parce que là, ça a forcé Marc Bergevin à peut-être accélérer certaines de ses décisions en se disant, ben là, il y a comme une espèce d'ouverture vers un nouveau momentum qui est créé par la participation du Canadien en série. Puis je pense qu'on peut pas, à partir de ce moment-là, c'était comme devenu presque un incontournable. Je sais pas ce que Marc-Antoine en pense, là, mais moi, c'est comme ça que je vois la suite des événements, là, ou j'explique la suite des événements.
Ben, Marc-Antoine, Marc Bergevin n'a jamais cru aux fameuses fenêtres d'opportunité de dire « Ah ben là, l'équipe rentre dans sa fenêtre ou la fenêtre est en train de se fermer, etc. » Sauf que il nous a répété tellement souvent au fil des ans qu'une fois rendu en séries éliminatoires, tout peut arriver. Mais là, en même temps, je pense que les gestes qui ont été posés ont vraiment... Il parlait toujours de poser des gestes qui auraient du sens pour le court terme, mais aussi pour le long terme. Puis il regardait beaucoup en fonction de l'avenir. Je pense que ce qu'on a vu au cours des derniers mois, c'est un réajustement de ses priorités, puis qui a ramené ça beaucoup plus vers le présent, parce que là, il voit que effectivement, tu sais, quand on regarde les résultats dans les séries éliminatoires d'une année à l'autre, il y a des équipes qui se retrouvent en finale de conférence ou en finale de la Coupe Stanley qui n'étaient pas nécessairement des grandes prétendantes en premier lieu, mais là, le Canada, il flaire que l'équipe va être assez bonne pour dire on va être en séries éliminatoires. C'est pas juste on va se battre pour rentrer en séries éliminatoires. On devrait y être. Et encore cette semaine, Claude Julien dit la même chose.
Et Marc-Antoine et Danny, il y a quand même un résultat qui est intéressant sur la construction de l'équipe. Je reviendrai à Marc Bergevin tantôt parce qu'il a réalisé un score rêvé pour tout politicien de la planète Terre à ce sondage, mais il y a quand même 64% des gens, Marc-Antoine, qui dans votre sondage sur athletic.com parmi les partisans du Canadien là, qui croient que le Canadien a bien fait d'asseoir la fondation de son équipe, de continuer d'asseoir son équipe sur les fondations Price et Weber, alors qu'il y a un an, je me souviens même d'un sondage qui avait été publié, je pense bien, par nos amis de Québécois, que ce soit TVA Sport ou le Journal de Montréal, là, c'est la même chose, là, où un pourcentage quand même assez appréciable de gens croyaient qu'il fallait les échanger contre des choix de repêchage et des jeunes. Là. Ça aussi, c'est un 180 degrés.
Oui, écoute, vas-y, Danny.
Moi, ouais, je disais, c'est qu'en fait, dans les ce qu'on a On entend très rarement les partisans dire on est sur la bonne voie, attendons. C'est soit on échange tout le monde puis on rebâtit, ou on en a assez, on s'en va pour la coupe. C'est un peu on est un peu aux deux extrêmes. C'est très rare qu'on ait à mi-chemin entre les deux. Puis je pense que le Canadien se trouvait à cette période-là un peu à mi-chemin entre deux situations, c'est-à-dire celle de le fameux reset ou le virage. Mais à peu près, il y a un épuisement après un certain temps, d'après moi, dans la population, d'entendre le même discours sans voir le fruit ou sans toucher le fruit de ces fameux gestes ou décisions d'organisation.
Marc-Antoine, le politicien le plus populaire au Québec a été M. Legault, le premier ministre actuel. Là. Puis il a à peine dépassé 60% à un moment donné dans le taux de satisfaction. Marc Bergevin, là, après 8 ans où l'équipe a raté les séries quand même à plusieurs reprises, là, pour 67% de vos répondants, là, obtient une note de 8, de 9 ou même de 10. Ça, c'est un score impressionnant après 8 ans à la tête de l'équipe, là.
Moi, je pense que c'est ce qui me subjugue le plus. Parce que, tu sais, on a beaucoup parlé du reset. J'ai l'impression que pour sa marque personnelle à lui, son reset, il l'a eu cet été là, parce que c'est refaire une jeunesse, avoir une nouvelle vie de cette manière-là dans l'opinion publique, c'est assez exceptionnel. Je pense que peut-être qu'il y a, jusqu'à un certain point, il y a de la vision à courte vue. Les gens se rappellent de ce qui vient juste de se passer. Ils sont enthousiastes. Les questions sont posées pendant une saison morte qui donne lieu à tous les espoirs et qui fait rêver les amateurs. Donc, je pense que ça aide à remplir le verre un petit peu. Là.
Et à aucune défaite, Marc-Antoine, le Canadien n'a pas de série de défaites actuellement. Là.
Exactement. Puis je pense que le bémol dans tout ça, c'est que il y a quand même une majorité de partisans dans une autre question qui disait que si jamais le Canadien ne faisait pas les séries, il considérait qu'il s'attendait à ce que Bergevin perde son poste à la fin de la saison prochaine. Donc, tu sais, il y a une embellie, mais on sent que ça demeure toujours fragile.
Ouais. Danny, en bon Québécois, il est au bâton, là.
Ouais, ben en fait, c'est un peu normal, tu sais, dans le cycle de vie des dirigeants comme des entraîneurs, tu sais, il y a une durée de vie, là. À un moment donné, ça prend des résultats. Je pense que Marc Bergevin est très conscient de ça. Je suis sûr qu'il écoute l'émission, il apprend rien là, tu sais, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on est tributaire de nos résultats. Ouais. Et dans le contexte à Montréal, il y a quand même eu un sursis important parce que, écoute, là, il y a eu plusieurs années où le Canadien n'a pas participé aux séries.
C'est vrai.
C'est pas des résultats édifiants. Il y a personne qui est content de ça. Mais en même temps, bon, on a dit, tu sais, on est en train de faire un virage. Maintenant, là, le virage, il est plus qu'amorcé avec les dernières transactions. On pense qu'on est arrivé dans une zone où, après, avec une perception qui est favorable en raison des résultats des séries, il y a de l'espoir qui s'installe, mais cet espoir-là, maintenant, devra se concrétiser en résultats parce que par les années passées, il y a eu de l'espoir, mais pas vraiment de résultats.
Et Marc-Antoine aussi, il faut quand même dire que le propriétaire, M. Monson, qui a la moins bonne cote de popularité là, chez tous les dirigeants, que ce soit Bergevin, Timmons ou Julien, c'est lui qui a la moins bonne cote. Il n'a pas rien fait pour atténuer tout ça, parce que quand il a fait une tournée d'entrevue chez vous, chez nous, puis un peu partout, quand est venu le temps de parler de la prolongation de contrat de Marc Bergevin, il a été très timide, puis il a commencé à parler de résultats. Et c'est probablement ça qui n'a pas atténué l'effet de plus de la moitié de vos répondants qui pensent que si l'équipe n'a pas de résultats, il va perdre son poste.
Ben, je pense que dans le cas de Jeff Molson, comme dans celui de Bergevin, j'espère qu'il ne gère pas en fonction des sondages qui proviennent des amateurs. Puis je pense que c'est une bonne chose qu'il garde la bride serrée puis qu'il envoie le message de dire ben là, ça fait plusieurs années que mon directeur général est en poste. Puis justement, on parle de résultats, ben on veut en voir. C'est beau de toujours dire l'avenir, les jeunes, etc. Mais il y a quand même dans cette équipe-là un arrimage qui n'était pas évident qui allait se produire entre les plus jeunes, les Kotkaniemi, Suzuki, même des joueurs peut-être un petit peu plus vieux que ça, et à l'autre extrémité, Price et Weber, les deux plus gros salariés de l'équipe. Surtout dans le cas de Price, qui avait des performances assez inconstantes depuis 2 ou 3 ans. Tu dis là, à quel moment est-ce que les jeunes vont arriver à un moment où ils vont être capables de bien contribuer et que les plus vieux vont être encore capables de contribuer? C'était pas clair que ça allait se produire. Je pense que les séries éliminatoires nous donnent l'espoir que ça puisse arriver. Alors, c'est pour ça que là, quand on parle de ramener ça au présent, c'est de dire, ben là, les résultats doivent arriver maintenant parce que cette conjoncture-là, elle durera pas 5-6 ans.
Ouais. Moi, je veux juste rajouter quelque chose là-dessus, Martin, sur ce que Marc-Antoine vient de dire, c'est que l'arrimage arrive entre les jeunes et les plus vieux, arrive quand les jeunes sont assez bons. Quand les jeunes sont capables de prendre les responsabilités accrues.
Suzuki et Kotkaniemi ont envoyé un peu comme message dans les séries.
Le message a été envoyé en série et là, ben, donc, le niveau d'attente va augmenter pour ces gars-là. Mais gardons quelque chose à l'esprit qui est fondamental. Lorsqu'on a parlé du dossier de Philippe Dano et de sa renégociation de contrat, on a mis une affaire en perspective en ce qui concerne la ligne de centre du Canadien. Les joueurs clés du Canadien, si on exclut Philippe Dano, il y a personne qui a 150-200 matchs d'expérience en ligue là, avec un rôle important, en jouant un rôle important. Donc, il faut quand même se garder une certaine réserve en ce qui concerne le potentiel de cette équipe-là. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, les Anderson et Toffoli et compagnie, c'est des ailiers. Ouais. Et le cœur d'une équipe, ça passe par la ligne de centre, la défensive également gardien, mais la ligne de centre est cruciale. Et donc, moi, je oui, il y a de l'espoir, mais je suis un peu comme Marc-Antoine. Puis je tenais à mentionner le fait que l'arrimage arrive quand le talent est aussi arrivé à maturité.
Je te relance un peu là-dessus, Marc-Antoine, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de s'en parler, mais as-tu l'impression que de ne pas avoir réglé Dano, peut-être, visiblement, il va peut-être entamer sa dernière année de contrat, à la moins d'un revirement de situation qu'on ne prévoit pas au moment où on se parle, là. Est-ce que tu penses que le Canadien pourrait échapper à un morceau important qui donnerait du sens à tout ce qu'ils ont fait dans ces dernières semaines?
Ben écoute, moi je m'attends à ce que Philippe Dano dispute la dernière année de son contrat à Montréal, mais que la négociation, je pense pas qu'il va arriver à avoir un nouveau contrat avant le début de la prochaine saison, parce que le message qui a été envoyé, c'est il y a de l'argent pour tout le monde sauf pour toi. Oui. Et quand on regarde les comparables sur le marché, Philippe Dano est quand même dans une position de négociation assez forte. Il y a des joueurs autour de lui, que ce soit par exemple Jean-Gabriel Pageau ou Charlie Coyle, des gars qui au plan statistique, il est supérieur à ces joueurs-là, et c'est des gars qui gagnent 5 millions ou plus par année. Alors, est-ce que le Canadien a identifié le bon gars en disant on aimerait que tu fasses un sacrifice pour qu'on puisse avoir tout le monde sous le plafond salarial? Dano s'est choisi de se tourner vers le marché des joueurs autonomes. On va réaliser qu'il va être l'un des meilleurs joueurs de centre disponibles l'été prochain. Alors lui, il se dit si j'ai pas le montant que je vise, je suis bien prêt peut-être à donner un petit rabais maison, mais si on me demande de faire un trop gros compromis sur le marché, je vais aller obtenir le montant que je cherche.
Donc on le sous-estime selon toi. Puis je sais pas, si j'avais eu à glisser une question supplémentaire dans votre sondage, Marc-Antoine, j'aurais été curieux de savoir si les gens considéraient Dano comme un morceau important qu'il faut garder à Montréal.
Ben, je pense que les gens le sous-estiment parce que la quantité. Le boulot qu'il a réussi à accomplir en tant que premier centre, en tant que centre capable de produire à 5 contre 5 contre les gros trios adverses, puis faire en sorte que les gros trios adverses, eux, ne produisent pas, ça n'a pas été évident. Puis je sais que les gens disent, ouais, mais là, regardez ces statistiques, un gars qui fait 45-50 points par année, bon, c'est pas un vrai premier centre, mais il faut rappeler à tout le monde que Dano ne joue pas en avantage numérique. Si tu regardes simplement sa production à 5 contre 5, il fait vraiment bonne figure par rapport aux autres bons joueurs de centre de la Ligue nationale. Donc,
il est dans le top 10.
Jamais, ben écoute, si il jouait en avantage numérique de manière régulière, je ne prêche pas nécessairement pour ça, ben c'est sûr que ses statistiques seraient meilleures, puis il serait encore en droit d'en demander davantage. Mais c'est juste que le Canadien dit, ben là, on a deux gars qui ont deux jeunes qui poussent, qui vont être l'avenir de notre ligne de centre. Est-ce que Dano pourrait s'accommoder d'un rôle de troisième centre à un moment donné? Est-ce que c'est quelque chose qui, sur un contrat à long terme, dans la troisième, quatrième année de son contrat, il serait capable d'accepter? C'est pas évident parce que ça demande aux joueurs qui ravalent son estime. Puis là, c'est comme si tu demandes aux joueurs un peu de gérer la décroissance, alors que Dano, lui, est dans une mentalité où il se dit, ben, je suis encore assez jeune pour continuer de m'améliorer puis être meilleur que ce que j'ai prouvé jusqu'à maintenant.
T'as raison, il est au sommet de sa carrière, alors lui, il se voit pas certainement pas en arrière des deux gars que t'as mentionnés, et certainement pas Kotkaniemi, en tout cas, tout au moins, là. Je peux pas voir Philippe Dano dire, OK, je vais être troisième, puis, et c'est sûr que les gars parlent comme ça, là. Je fais juste paraphraser. Et les deux kids vont être en avant de moi, que c'est moi qui ai fait le travail pendant toutes ces années-là. Mais moi, je serais pas à l'aise, de toute façon, là, dans une situation comme ça.
C'est pas évident non plus de savoir ce que sera Kotkaniemi. On a une bonne idée avec Suzuki, mais c'est pas évident de savoir ce que sera Kotkaniemi dans 4-5 ans. Messieurs, le temps avance. Alors, j'y vais un petit peu plus rapidement pour un dernier point. C'est sans surprise, Marc-Antoine, qu'on constate dans le sondage que pour les amateurs, là, l'acquisition la plus intéressante a été celle de Josh Anderson pour plus de la moitié des répondants à ce sondage. Il y a eu des quand même un 35% pour Toffoli. Mais quand on regarde vraiment comme il faut, c'est peut-être l'acquisition de Allen qui, vraiment de façon statistiquement vérifiable, va donner des résultats concrets et des victoires de plus aux Canadiens.
Ben, c'est parce que c'est assez particulier. Il pourrait amener des victoires aux Canadiens de deux manières. D'une part, parce qu'il va permettre aux Canadiens d'avoir un gardien auxiliaire qui est de meilleure qualité et qui va générer des victoires, mais aussi par le fait que quand il joue, il repose Price, de sorte que quand Price joue reposé, est en mesure d'offrir un meilleur rendement et donc d'aller chercher plus de victoires. Donc, c'est comme un coup double en allant chercher un gardien comme Jake Allen. Moi, je trouve que c'est une acquisition extraordinaire pour le Canadien. C'est vrai que le Canadien est l'équipe qui va dépenser le plus devant le filet, mais on a déjà écrit à ce sujet-là, mon collègue Arpin Basu et moi, sur Athletic. On comparait le contrat de Carey Price à une voiture de luxe. Là, tu dis, OK, ben là, tu as choisi de t'acheter une voiture de luxe, mais tu peux pas commencer à être cheap sur les pièces de remplacement puis sur l'entretien en disant, ben là, j'ai déjà payé mon auto cher.
C'est ça.
Ben, écoute, tu as choisi d'aller là, ben, oui. Assure-toi que tu as les bonnes pièces puis que tu continues de faire rouler ta voiture de course comme il faut. Je pense que c'est ça que le Canadien a fait en allant chercher Jake Allen.
C'est une bonne comparaison. En conclusion, Marc-Antoine, évidemment, on parle pas encore de conflit entre les propriétaires et les joueurs, mais on parle d'un ton qui s'est un peu envenimé au cours des 24-48 dernières heures. Est-ce que tu penses qu'on sera capable de conclure une entente pour pouvoir jouer au 1er janvier?
Ben, 1er janvier, moi, ça m'apparaît très précipité. Je pense que si on repousse ça au 15 janvier, ce sera pas la fin du monde. Mais il faut absolument que la Ligue nationale et ses joueurs en viennent à une entente. Tu sais, chasser le naturel et il revient au galop. Sortir les gros mots puis les hausser le ton, c'est ce à quoi ils ont l'habitude. Et puis c'est ce à quoi on assiste dans les derniers jours. Mais je pense que c'est une situation qui est où tout le monde est appelé à faire des compromis parce que personne fait de l'argent dans le contexte actuel. Ouais. Cela étant dit, je comprends la frustration des joueurs qui, eux, jugeaient qu'ils avaient déjà fait des concessions dans le cadre de la nouvelle convention collective. Là, de demander de revenir, de réévaluer encore certaines concessions qu'ils avaient faites pour en donner plus. Je comprends d'un certain côté leur frustration, sauf qu'ils sont pas en position de force dans ces négociations.
Marc-Antoine Godin, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Ce ne sera que partie remise et je rappelle à nos auditeurs que quotidiennement, on peut vous lire toi et Arpin Basu et plein d'autres collègues en Amérique sur athletic.com.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli, messieurs. Bonne journée.
Merci. Plaisir. On va s'arrêter pour quelques instants, mesdames, messieurs. Et au retour, on a terminé avec Marc-Antoine sur ses négociations entre les propriétaires et les joueurs de la Ligue nationale. On fera le point avec Danny. Au retour de ces messages, vous écoutez Prolongation. Bon samedi.